bien qu'il soit laconique sur la chose, c'est Raymond Queneau qui a dû l'encourager à écrire. Il écrivait des chansons. Jeune, il a dû, comme beaucoup, n'est-ce pas, griffonner des nouvelles, des textes. On devine aussi qu'il a été très tôt tenté par l'autobiographie, puisqu'il avait souffert et qu'il souffrait encore d'avoir de tels parents. Il fut encouragé par Raymond Queneau, d'où en 68, dans un café du boulevard Saint-Germain, quoique taciturne et timide, il a rencontré une charmante jeune fille brune, c'était Dominique Zerfus, qu'il allait épouser, qui allait devenir Dominique Modiano, son épouse et la mère de leurs deux filles. Alors Dominique Zerfus était la fille de Bernard Zerfus, architecte juif, comme son nom l'indique. C'est l'architecte qui a très lié André Malraux, qui a construit l'UNESCO à Paris. Un architecte d'avant-garde dans les années 60-70. Cet architecte avait épousé une riche Tunisienne, juive aussi. Donc Zerfus, ce sont des Askénazes qui épousent des Séfarades, si bien que Modiano ira en voyage de noces dans la famille de sa femme en Tunisie. Et ce qui vous explique qu'un certain nombre de ses livres ménagent des escapades dans des villes très chaudes de Méditerranée, etc. Il sera très content de ce séjour en Tunisie parce qu'il va retrouver en Tunisie des amis de ses parents qui avaient pris le large prudemment en 1944-1945 et qui s'étaient réfugiés sans mot dire en Tunisie ou à Tanger ou au Maroc. Hein, des collabos, d'anciens collabos cachés. Bon. Le mariage aura lieu à Paris de Modiano et de son épouse. Elle avait pris comme témoin, s'il vous plaît, André Malraux. Et lui comme témoin, Raymond Queneau. Si ce n'était pas se prédisposer à faire de la littérature, je ne m'y connais pas. C'est elle, Dominique Modiano, qui a raconté la chose dans un de ses livres. Le mariage fut consternant. Il ne reste aucune photo, parce que les photographes avaient oublié de remplir leurs appareils de pellicule, d'une part. D'autre part, il avait plu. Bon. Et ensuite, le mariage avait été gâté par les grandes conversations littéraires et philosophiques de Raymond Queneau et d'André Malraux, qui avaient monopolisé la conversation sur des points n'ayant aucun rapport avec les jeunes époux. Donc, stimulé par Queneau, pas par Malraux, qui n'était pas homme à s'intéresser à quiconque, sauf à soi, il s'est lancé dans la rédaction d'un livre. Alors, ça va être son premier livre, qui va le lancer en littérature, La place de l'étoile. La préface, j'ai là l'édition originale, cela paraît en 68, cela avait paru, si mes souvenirs sont bons, juste avant les événements de mai 68. Donc la critique et le public avaient eu le temps, avant de s'occuper de la révolte étudiante, avaient eu le temps de s'intéresser un peu à La place de l'étoile. Le livre est préfacé par un journaliste et romancier et essayiste, qui à l'époque était très connu, Jean Cau, C-A-U, qui avait été le secrétaire de Sartre à la direction des temps modernes, donc d'extrême gauche comme son patron, et puis qui avait viré vers la droite, et voire la droite extrême. Mais Jean Cau, qui a dû l'encourager à écrire, relire son manuscrit, Jean Cau était à l'époque l'amant de Madame Modiano, de sa mère. De sa mère, muni d'un tel amant, Modiano a fait des personnages dans ses romans. Elle a l'air vêtue d'un imperméable, d'une vieille auxiliaire féminine de la Wehrmacht, dit-il, et lui a l'air à la fois d'un mauvais torero et d'un prêtre défroqué. C'est beaucoup, n'est-ce pas, pour un seul homme. Bon, c'est la transposition romanesque de ces personnages. Ce premier roman a attiré l'attention, il avait 22 ans, le livre a été bien reçu, a obtenu de petits prix littéraires, et le livre commence par une histoire merveilleuse. Est-elle de son fait, ou est-ce une histoire juive, comme il le dit? Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit « Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'étoile ?» Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine. Puisque, depuis 41, les Juifs étaient, par les lois raciales du maréchal Pétain, obligés de porter l'étoile en zone occupée. Pas en zone libre, dite libre. Tout changera quand les Allemands, en novembre 1942, envahiront l'ensemble de la France. Alors, ce livre est un livre violent, avec beaucoup de noms propres de gens compromis dans la collaboration, pétainistes, collaborationnistes, etc. Et vous avez l'aventure presque picaresque d'un jeune homme juif, mais qui se prétend, il s'appelle Lemilovitch, qui se prétend plus anti-juif encore que Céline, que Rebatté, que les pires collaborationnistes qui soient. Et ce juif anti-juif va d'aventure en aventure, recrute des femmes pour la traite des blanches, souille des aristocrates, etc. Donc on est du côté d'une narration, onirique, fantastique, absolument invraisemblable. Mais tout se termine, n'est-ce pas, dans un... Ça se termine. Pas tout à fait. Il tombe entre les mains du docteur Freud. C'est un cas intéressant, n'est-ce pas, de soigner un juif antisémite. Bon. Toutes les époques sont brouillées. Il y a un long passage, vers la fin, qui se déroule en Israël. Il a fui l'Europe où l'on persécute les juifs, fût-il antisémite. Et alors lui, quand même, n'est-ce pas, il est lié à l'élite du Parti national-socialiste, et en plus, il prétend être un amant d'Eva Braun, de la maîtresse d'Hitler. Alors c'est pas rien, quand même. Donc, vous voyez, des outrances, quelque chose de démesuré, et il file en Israël, et en Israël, il tombe dans un camp de redressement, où il va être très très rudement traité. Il s'aperçoit, n'est-ce pas, que la police israélienne est à tout prendre aussi brutale que la Gestapo. Bon, alors, vous voyez, c'est un livre plein de paradoxes, où une culture extraordinaire de la part d'un jeune homme de 22 ans, qui n'avait pas vécu l'époque, apparaît, avec de très brillants morceaux. Vous avez une parodie du style du pamphlétaire Lucien Rebatté. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Oui, journaliste extrême droite, ultra-collaborationniste, condamné à mort, gracié, auteur en 1943 d'un énorme pamphlet intitulé « Les décombres ». Ce sont les décombres de la France, les décombres de la démocratie, les décombres de toute la société française. C'est un livre, un énorme succès de presse en 1943. C'est un livre extraordinairement brillant. C'est un pamphlet, il y a un art du pamphlet. Et Rebatté décrit la défaite française en 1940 de façon absolument inoubliable. Cela vaut le même récit, admirable aussi, de ce roman posthume couronné du féminin d'Irène Nemirovsky, une remarquable romancière juive russe d'origine, juif fortuné, vivant très répandu dans les milieux mondains avant-guerre. Ses premiers livres sont salués partout, à droite, à gauche. La presse de droite ou d'extrême droite ne tient aucun compte du fait qu'elle soit juive. On l'admire et c'est tout. Mais sous l'occupation, elle est arrêtée. Et elle partira vers l'Est et elle y mourra. Le jury du Fémina eut la bonne idée, il y a 10-15 ans, de lui accorder le prix Fémina à titre posthume. Et Dieu merci, sa fille eut le génie de préserver, elle était petite fille à l'époque, en 43-44, quand Irène est arrêtée, elle eut le génie de cacher les valises contenant les manuscrits. Et là-dedans, vous avez un roman, une page française, qui rapporte admirablement la défaite lamentable de la France en 40. La débâcle, les fugitifs sur les routes, c'est un livre superbe. Bon. Dans le pamphlet de Lucien Rebatté, Les Décombres, la chose était déjà narrée. Donc vous avez, chez Modiano, une parodie du style de Rebatté. Vous avez des pages sentimentales, parodie des romans de Robert Brasillach, autre écrivain collaborationniste, fusillé le 6 février 1945. Vous avez des moqueries de toutes sortes envers toutes sortes de gens, d'écrivains. Bon, c'est une espèce de pétard que ce livre, un explosif. Et comme Modiano était charmant avec les journalistes et avec le public quand il signait son livre, comme il était, me semble-t-il, très beau garçon, tout le monde s'est attendu à ce qu'il poursuive. Et encouragé sûrement par Raymond Queneau, il va donner, alors ce sont les livres qui suivent, La Ronde de Nuit, d'après le titre du tableau de Rembrandt, qui est dédicacé à son frère, pour Rudy Modiano, et aussi pour maman. Il n'est pas encore en mauvais termes. En 69, alors, la Ronde de Nuit est un livre qui entre encore plus dans ses années de collaboration à Paris, puisque le personnage, qui dit « je », dans ce livre, travaille à la fois pour un réseau de résistance et pour la Gestapo française du 93 rue Lauriston, dirigée par les sinistres Bonny et Lafont, policiers dévoyés français. Et vous avez des scènes abominables, alors de fêtes crapuleuses et luxurieuses à la fois rue Lauriston, et puis de torture. On torture et on exécute, on assassine les résistants. Et tout se termine de façon très paradoxale. Il est coincé. Les collabos ont mesuré qu'il avait travaillé pour la résistance. Il a livré, n'est-ce pas, le réseau de résistance. Bon, tous sont partis vers les prisons allemandes. Et il est poursuivi et il quitte Paris par l'Est, poursuivi. Enfin, bientôt, il n'aura plus d'essence. Il ne sait pas manier un pistolet. Donc c'est le jeune agent double, le jeune traître, et cette occasion pour Modiano d'éplucher, si j'ose dire, quantité d'abominations commises par la Gestapo de la rue Lauriston. Donc il devenait une espèce de spécialiste de fiction se déroulant. Et alors ce qui est étonnant, là encore, quelques journalistes bien informés ont fait le travail, les noms propres qu'ils citent, sont tous des noms obscurs, mais réels, de trafiquants, de tortionnaires, de gestapistes, de prostituées, d'agents doubles, avec une couleur, si j'ose dire, locale et historique, très surprenante. Le troisième livre de cette trilogie, car c'est une trilogie, non, ce sont trois livres qui se ressemblent, ce ne sont pas les mêmes personnages. Grand prix du roman de l'Académie française, s'il vous plaît, en 72, c'est Les boulevards de ceinture. Vous avez un livre toujours travaillé par beaucoup de réminiscences de la collaboration et d'une extraordinaire précision, mais un livre où enfin le père apparaît en tant que personnage. Vous avez un narrateur qui dit « je », qui munit de son père. Le plus gros des trois, c'est mon père, dit-il. Bon. Muraille est penché vers lui comme pour lui dire quelque chose à voix grasse. Bon, il est en train, n'est-ce pas, d'interpréter une photo. Et dans une belle maison des environs cossus de Paris, son père et lui sont invités à passer, un week-end, par de drôles de gens. Gens qui tous sortent, n'est-ce pas, des milieux de la collaboration. Et au bout de quelque temps, l'on s'aperçoit que la chose se passe pendant l'occupation. Or, Modiano, Patrick, en tant que personnage, fils du père, ne peut pas s'y trouver. Donc, c'est une tentative, n'est-ce pas, d'écrire sa vie aux côtés de son père. Et le père est un répugnant salaud dans ce livre. C'est une occasion, n'est-ce pas, de vivre par personnage interposé une époque qu'il n'a évidemment pas connue. Tous les personnages sont effrayants, et surtout, comme pour les deux premiers romans, plus encore peut-être pour celui-ci. On mesure qu'il avait déjà, alors son premier roman, il avait 22 ans, qu'il avait déjà parfaitement maîtrisé la carte de Paris de 40 à 44, 45, Paris est libéré en juin 44, et qu'il maîtrisait parfaitement le personnel, les noms et les fonctions du personnel des diverses officines de la Gestapo française, de la presse collaborationniste, etc. La Ronde de Nuit, non, c'est dans le boulevard de Ceinture, vous avez tout un passage sur les journalistes de la collaboration qui sont invités lors de cette partie de campagne chez ces drôles de gens qui reçoivent son père. Le père fait des affaires avec eux, forcément, et là-dedans, vous trouvez le personnage sous un pseudonyme, et le pseudonyme est transparent, vous trouvez le personnage de Robert Brasillach. Ici, taxé d'homosexualité. Mais c'est un grief qui fut souvent adressé. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est un grand compliment d'être homosexuel. C'est une originalité chic, ça se porte. Mais à l'époque, c'était un grief. Donc c'est façon de noircir le personnage de Brasillach. C'est un écrivain qui m'intéresse. Je sais, il ne s'est jamais marié. Je sais, de source absolument sûre, de sa sœur et de son beau-frère, que toute sa vie sentimentale, il fut l'amant d'une femme mariée, qui ne voulait pas divorcer, qui ne pouvait pas divorcer. Donc il me semble que pour un homosexuel, peut mieux faire, quand même. Hein. Donc Brasillach commence sans doute à lire ses livres, aimer les femmes. Bon. Mais on dit maintenant bi, peut-être bi. C'est très curieux, ce reproche d'homosexualité, qui a marqué, on voulait les décrier, enfin les disqualifier, qui a marqué certains écrivains, alors que d'autres, ça devenait un titre de gloire. Si Brasillach eut je ne le sache pas, hein, mais s'il eut une liaison homosexuelle avec un homme, on le dirait pour l'accabler, et je vois que dans son journal intime paru posthume, Drieu-La Rochelle reconnaît avoir eu une expérience homosexuelle avec Aragon. Tout le monde trouve ça très intéressant. Et très bien. C'est que Drieu-La Rochelle est à la mode, Aragon aussi, Brasillach, non, n'est-ce pas ? C'est l'horreur absolue. Aujourd'hui encore, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront, vous connaissez, les vers de La Fontaine, blanc ou noir. Donc ces trois livres ont lancé un écrivain inventif, brillant, original par les sujets qu'il traite. Alors, ce qui est original aussi, c'est l'absence de la part de Modiano de tout passage pathétique ou attendri ou vindicatif sur l'extermination systématique des Juifs auxquels, avec beaucoup de complicité, les Allemands se sont livrés. À l'époque, on explorait de mieux en mieux la question. Les historiens travaillaient et l'opinion de moins en moins acceptait que l'on plaisantât avec ces sujets ou qu'on les prît à la légère. Bon, et ceux qui doutaient de l'existence de telle politique d'extermination ou des fameux coups de four crématoires étaient poursuivis déjà devant les tribunaux. Donc Modiano, juif, était bien placé pour, ici ou là, n'est-ce pas, attirer notre attention sur l'attention de son lecteur, sur l'horreur du sort qui fut réservé à ces malheureux obligés de porter l'étoile jaune et tout le temps menacés dans leur vie et dans leur dignité humaine, dans leur chair. Non, il s'en abstient. Et il essuiera des reproches au moment de son film « La Combe Lucien », où il évoque un jeune homme qui hésite, comme si c'était un débat cornélien, sans aujourd'hui beaucoup de répercussions, entre le maquis, la résistance, et la milice. Et apparemment, le jeune homme, Modiano, lui donne toute sa sympathie.